Et bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du Chemin Rouge. Nous sommes le jeudi 28 mars 2023 et aujourd'hui nous vous proposons un 2024, pardon, ouais, exactement 2024. Et aujourd'hui nous vous proposons un live thématique autour de la parentalité et des écrans. Alors nous avons intitulé cette émission La parentalité face aux écrans. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus connecté, bah, nos enfants ils sont facilement face à différents outils numériques, que ce soit le téléphone ou ce que nous avons entre nos mains, la télé pour les dessins animés, l'ordinateur où joue le grand frère ou la grande sœur, la tablette où plein de petits jeux sont à découvrir. Bref, une multitude de choix, mais qui sont souvent préoccupants pour les parents. Comment limiter le temps face aux écrans? Comment en parler avec les enfants? Que faire face aux contenus sensibles? Quelle méthode pour détacher nos enfants des écrans? Toutes ces questions, nous allons nous les poser aujourd'hui avec nos différents invités. Nous avons donc autour des micros Bérangère, coordinatrice famille parentalité au centre social du Chemin Rouge. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Marie Traoré, consultante en parentalité sur le quartier de Lille-Sud. Bonjour Marie.
Bonjour.
Laurent, habitant de Lille. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et Stéphane, habitant de Wascal.
Bonjour.
Et puis il y a moi, Rémi, du coup chargé de transition numérique au centre social, avec Théo pour vous accompagner en régie. Et donc pour commencer, ben, je vais te laisser la parole Bérangère et puis ben, un peu présenter déjà qui est chacun.
Qui est chacun? Tu me donnes le casque, ouais, bien sûr. Alors, on va commencer par toi Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, donc moi je suis Stéphane, j'ai 37 ans, je suis papa de deux enfants, dont Lucas qui a 8 ans et Lola qui a 4 ans, et je travaille en tant que formateur en travail social.
Alors qu'est-ce que ça évoque pour toi la parentalité face aux écrans?
C'est des questions qui se posent quasi tous les jours du coup avec les enfants, et... Il y a un côté plaisir sur certains écrans, et puis quand même, on fait partie des ma génération, on va dire, des enfants de la télé, mais il y a aussi beaucoup de questionnements, de savoir poser le cadre, les limites. Enfin voilà, c'est assez complexe au final.
Et chez toi, les écrans, ils occupent quelle place?
Chez moi, personnellement, déjà, en tant que... papa, ils occupent une place importante puisque je suis sur l'ordinateur régulièrement pour le travail, mon téléphone pour plusieurs applications au quotidien. Donc, et puis la télé pour le soir, pour un film, pour des émissions. Donc au final, personnellement déjà, ça occupe une place importante finalement dans ma vie.
Et du coup, tes enfants, comment ils utilisent les écrans?
Alors il y a deux choses différentes, on va dire, par rapport à ma fille qui a 4 ans, qui est plutôt à regarder des dessins animés, et mon fils qui regarde les dessins animés mais qui est passé aussi à une Switch. Et alors là, le basculement s'est produit, l'effet de la console vidéo est entré dans la maison. Et donc la Switch, on va dire, depuis un an je pense à peu près, et du coup voilà, c'est encore une autre appropriation et une chose à gérer et d'autres règles à poser pour lui. Mais en tout cas, ça occupe une place et ça doit occuper une place de plaisir. Voilà, une activité, comme il y a d'autres activités à la maison, c'est une activité qui en fait partie et c'est une activité plaisir pour eux en tout cas.
Voilà. Alors je te propose qu'on développe tout ça un peu plus tard et on va laisser Laurent se présenter.
Alors, moi, je suis papa d'une petite fille de 13 ans, j'ai 43 ans. À la maison, on a beaucoup d'écrans, on a 7 écrans, il y a 3 téléphones, 3 ordi portables et un ordi fixe. On n'a pas de télé. L'une des particularités, c'est que je travaille à la maison et je suis graphiste, donc je travaille sur des écrans à la maison. Voilà. Voilà, globalement.
Ok. Alors, toi, tu es venu à notre rencontre au centre social. Et à la base, ta demande, c'était que tu t'inquiétais un peu des écrans avec ta fille, de l'utilisation. Tu avais fait pas mal de recherches sur le sujet et ta volonté, c'était de partager tes recherches, tes trouvailles.
Oui, alors je voulais savoir où est-ce qu'un centre social en était sur la problématique des écrans et de la parentalité. Je voulais aussi chercher à me souvenir de comment mon enfant, enfin les enfants, ont appréhendé l'écran. Parce qu'il y a des périodes, hein, quand on a 4 ans, quand on a 8 ans, quand on a 13 ans, on n'a pas le même rapport aux écrans. Et comme c'est nouveau, on est l'une des premières générations où il y a autant d'écrans dans un habitat. On est passé d'une période où l'écran rassemblait la famille, la période qu'on a connue, nous, quand on était des enfants, où il fallait se battre pour avoir le bon programme. Il fallait débattre. Hein. Bon, je préfère regarder ci, je préfère regarder ça. À une période où l'écran peut diviser. Il y a une consommation de l'écran en solitaire. Donc je voulais faire un point là-dessus, en fait.
Je me souviens aussi que tu avais parlé d'une réunion d'information à l'école à laquelle tu avais assisté, du coup sur ce thème des écrans, et qui t'avait un peu inquiété quand même.
Ouais, j'avais été surtout déçu parce que, alors en effet, c'est un sujet qui je me sens concerné, et je m'attendais à plus que à tel âge, il ne faut pas laisser l'enfant plus que autant d'heures ou autant de minutes par journée. À tel âge, c'est autant, enfin, etc. Il me semblait que, en fonction de l'activité qu'on a en face d'un écran, eh ben, ça varie. D'ailleurs, c'est plus comment on utilise des choses connectées, des programmes connectés, comment on communique à travers tout cet environnement numérique. C'est surtout la pratique de tout ça qui m'interroge. C'est pas un temps de persistance rétinienne devant un écran, si tu veux. Moi, ce qui me pose aussi, c'est ce qui me pose comme question, c'est comment on grandit en utilisant des interfaces au quotidien. Qu'est-ce que ça change en nous, dans notre façon d'être, dans notre façon de grandir, dans notre façon de se développer? Et nous, parents, quel nouveau rôle avons-nous à avoir vis-à-vis de cette pratique qui est nouvelle? Enfin, voilà.
Eh bien, ce sont des choses qu'on va aborder juste après. Juste pour finir avec toi, Laurent, ta fille, elle utilise les écrans pour faire quoi?
Alors, je reconnais Oriane dans la pratique plaisir. Ça a été la première façon d'utiliser les écrans. D'abord, regarder des dessins animés, puis des vidéos, puis à partir d'un certain âge, YouTube arrive très vite, surtout dans une maison où on n'a pas la télé. Nous, on n'a pas la télé, je ne sais pas si j'avais dit. Et ensuite, les jeux vidéo arrivent. Évidemment, presque un petit peu après la vidéo. Et à partir de l'arrivée de l'adolescence et surtout de la période Covid qu'on a vue, ça a été la période où on a commencé à utiliser des écrans pour parler aux copains, pour écrire aux copains via des messageries instantanées, parce que ça a été une période assez particulière à ce niveau-là. Et il y a eu un avant et un après la période Covid, puisque à l'époque, Oriane était en CM1, CM2, je ne sais plus. À partir de ce moment-là, il y a eu cette habitude de pouvoir envoyer des messages.
D'accord, ben merci beaucoup. Alors, Marie, tu es ce soir notre experte. Un peu de pression comme ça. Alors, toi, tu accompagnes des parents sur le territoire. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton activité?
Oui, donc moi je suis coach parental, donc j'accompagne des parents soit en individuel ou en collectif autour des questionnements qu'ils peuvent avoir par rapport à la parentalité. Et les écrans en font partie. En tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent avec beaucoup de questions, l'impression de ne pas forcément savoir comment faire, de ne pas maîtriser les écrans et de perdre un peu pied. Et aussi, de l'autre côté, l'impression d'être jugé beaucoup quand ils vont essayer de chercher des informations, chercher de l'aide, etc., l'impression d'être jugé dans leur pratique. Donc, c'est quelque chose en tout cas qui revient souvent et c'est pas si simple que ça d'en parler finalement.
Et alors du coup, à côté du professionnel, tu es aussi maman. Est-ce que tu as envie de nous partager l'utilisation que font tes enfants des écrans ?
Oui. Alors du coup, je suis maman de deux enfants, un plus grand qui a 7 ans et une petite qui va bientôt avoir 4 ans. Et pour le moment, les écrans... C'est assez limité à la maison, on va dire. C'est uniquement quelques dessins animés, très occasionnellement, et un petit peu de jeux vidéo pour le plus grand. Mais c'est pareil, ça reste occasionnel. Mais je sens que dès qu'il y a un petit peu de dessins animés, dès qu'il y a un peu de jeux vidéo, tout de suite, ils en redemandent. Et c'est important de bien poser le cadre parce que ils ont vite envie de passer plus de temps sur les écrans.
Et je vois bien ce que c'est, ça. Alors, merci pour vos présentations. Alors, pour préparer notre émission de ce soir, avec Rémi, on a réalisé un micro-trottoir. Il est trop tard aussi. Et nous avons enregistré des échanges avec des familles et des professionnels aussi. Alors, du coup, je vous propose qu'on démarre par un thème qui est les âges et les usages des écrans. Alors, Stéphane et Laurent, à partir de quel âge vos enfants ont commencé à regarder les écrans ?
C'était différent pour mon fils et ma fille. Pour mon fils, il me semble que j'ai quand même voulu faire le bon parent et comme le bon papa, et comme ce n'était pas d'écran avant 3 ans, j'ai réussi à peu près, on a réussi avec sa maman, à tenir à peu près jusqu'à 3 ans. Il y a peut-être eu des Disney vers 2 ans et demi, des dessins animés un petit peu avant, mais je pense que généralement on est resté quand même sur le pas d'écran avant 3 ans et voilà, on a fait attention à ça. Mais pour ma fille, du coup, comme en plus il y avait le frère aîné qui regardait, je pense qu'elle a baigné dedans depuis sa naissance. Et paradoxalement, c'est pas elle la plus attirée par les écrans. Elle a vraiment jamais été attirée à regarder un dessin animé quand son frère regardait, elle jouait, alors que mon fils était vite scotché. Donc pour un écran, qu'on va dire la télévision en tout cas, c'était plutôt 3 ans et un peu moins pour ma fille. Mais pour cet écran-là. Après, en effet, pour les vidéos sur YouTube, parce que je rebondis sur ce qu'a dit Laurent, ça reprend vite le relais après. Et pour les jeux vidéo, ça arrivait à 7 ans pour mon fils. Puis ma fille, c'est pas encore jeux vidéo, mais elle regarde quand même les vidéos comme ça. Voilà.
Ok. Et toi, Laurent ?
Ma fille nous a d'abord vu regarder des écrans avant d'en utiliser elle-même. Je pense que c'est le premier contact. Je saurais pas dater. Hein. Ensuite, on a regardé ensemble des dessins animés. Ça devait être à peu près à l'âge de 3 ans, comme pour toi. Elle a eu une Nintendo DS vers 6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai déjà du mal à dater. Et par contre, la période Covid a été une... donc là, c'était le CM1, fin CM1. Ça a été une période de connexion avec inscription sur un réseau social pour qu'elle puisse voir ses copains.
Mmh. Ok. Alors, sur ce sujet, Marie, est-ce que tu souhaites nous partager des repères pour les âges, les âges et les usages?
Oui. Du coup, effectivement, alors les repères... Enfin, ça reste des indications, hein, mais en tout cas, pas d'écran avant 3 ans, effectivement. Ensuite, entre 3 et 6 ans, du coup, c'est vraiment très occasionnel, très exceptionnel. 6-9 ans, c'est 30 minutes maximum. Et après 9-12 ans, il me semble que c'est... 9-12 ans, c'est une heure. Et ensuite, à partir de 12 ans, c'est une heure maximum, voire deux. Enfin, entre une et deux heures. Et finalement, on n'y est pas... Enfin, voilà, en tout cas, les moyennes de consommation d'écran sont bien supérieures à ça. Mais après, enfin, les écrans sont partout et ce n'est pas forcément simple non plus de se détacher de tout ça. Et ils font aussi partie de la scolarité. Donc voilà, ça reste des indications, des repères. Mais effectivement, après, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire autrement ?
Alors, justement, tu l'as dit, pas d'écran avant 3 ans. Mais sait-on pourquoi exactement ? Est-ce que vous le savez ? Non, a priori.
C'est une bonne question.
Eh bien, du coup, je vous propose d'écouter le témoignage d'Hélène, qui est orthophoniste et qui a souhaité nous partager ses connaissances, parce que lors de ses consultations, elle voit les effets des écrans sur les enfants. Alors, elle nous a expliqué qu'un tout petit, donc avant les 3 ans, a besoin de deux choses essentielles. Et on va écouter la première chose.
Si on revient un peu sur le type d'expérimentation qu'il peut mener, eh bien, à la naissance, l'enfant, il explore le monde par le biais de ses sens. C'est-à-dire qu'il aime écouter, il aime regarder, il aime sentir, goûter, toucher, il aime être contenu dans les bras de son parent, il aime être bercé. Et puis, au fur et à mesure, du coup, que sa motricité va évoluer, il va progressivement expérimenter en agissant directement sur les objets.
Alors voilà, donc on a entendu la première chose à expérimenter, c'est la manipulation d'objets, mettre à la bouche, lancer, cacher, transvaser. Et avec ces expériences-là, l'enfant va comprendre les mécanismes et il va commencer à organiser sa pensée. Par exemple, il va se rendre compte qu'une balle peut rouler, elle peut aussi rebondir. En revanche, une fourchette, ça ne roule pas. Concernant la deuxième chose essentielle, Hélène évoque les interactions de l'enfant avec les autres. On l'écoute.
Il a besoin d'être imité et il a besoin d'imiter. Il a aussi besoin qu'on se préoccupe avec bonheur, avec émerveillement de ce qu'il fait, de ce qu'il regarde, de ce qu'il écoute. Si je veux illustrer ça, je dirais par exemple, l'enfant, quand il fait son premier hareux, quand il gazouille, quand il babille, il a besoin d'avoir son parent à ses côtés, qu'il regarde, qu'il s'émerveille et qu'il reproduise du coup le gazouillis, le babillage. Et comme c'était une expérience sympa, comme il a vu son parent qui s'émerveillait de ce qu'il faisait, eh ben il aura envie d'y retourner.
Voilà, donc du coup, plus on échange avec l'enfant, plus il va nous observer, nous imiter, mais aussi il va découvrir les expressions du visage et donc les émotions. Alors Stéphane et Laurent, est-ce que vous connaissiez ces repères que Marie a évoqués et aussi ces moment indispensable pour le tout petit qu'il doit vivre avant d'être face à un écran.
Pour ma part, j'avais les repères d'âge, mais en effet, j'avais pas le sens qu'on y mettait derrière et le pourquoi. Mais après, oui, quand j'entends un petit peu le discours de l'orthophoniste, je me doutais bien qu'en effet, il y avait ce relationnel. Et puis, je pense aussi par la suite à avoir des moments de créativité, puis connaître aussi des moments d'ennui. Voilà, des moments qui sont aussi importants et qu'il faut savoir réguler aux différents âges de la vie.
Il y a beaucoup de sensibilisation quand on devient parent, en tout cas en PMI, en petite enfance, sur cet aspect-là. Donc, on en avait entendu parler. Et puis, développer les sens, le toucher, l'ouïe, etc., c'est quelque chose qui est plus mis en avant que la pratique des écrans. Mais c'est bien d'entendre des mots pour expliquer, justement, le pourquoi. Enfin, voilà.
Ok. Marie, tu veux ajouter quelque chose?
Souvent en fait les parents ils mettre, par exemple, au début des tablettes, enfin, dans les mains des enfants, pour pouvoir apprendre. Enfin, il s'imagine, bah, tiens, il va apprendre les couleurs, il va apprendre. Mmh. Mais finalement, toute cette partie en 3D, les enfants ne l'ont pas. Et c'est ça qui, ben voilà, ils manipulent pas. Enfin, c'est tout ce qu'elle disait. Et au départ, les parents, quand ils donnent un écran à leur enfant, ça part pas d'un mauvais sentiment. Mais c'est vrai qu'avoir tous ces repères-là, c'est très important. Et je pense que ça permet de mieux comprendre pourquoi il y a ces indications d'âge, de temps. Et on y met du sens derrière.
Alors, pour terminer avec le témoignage d'Hélène, elle a souhaité mettre en valeur le rôle des parents. Et elle a d'ailleurs souhaité nous transmettre un message. Je vous propose qu'on l'écoute.
Maître, c'est que je pense que c'est important de rappeler aux parents qu'ils ont un rôle central, primordial dans le développement de leur enfant. Et c'est en ça, du coup, que les écrans, eh bien, ils peuvent biaiser le développement de la pensée, le développement de la communication et du langage, parce que ça vient interférer, ça vient biaiser les relations entre parents et enfants, en réduisant vraiment en quantité et en qualité les échanges qui sont menés. Et en ça, ça peut vraiment avoir un impact sur le développement futur du langage de leur tout-petit. Et puis, le deuxième point, c'est que tout temps passé devant un écran, pour le tout-petit, c'est un temps qui est perdu. C'est-à-dire que c'est un temps où le tout-petit aurait pu expérimenter, explorer, se créer des connaissances, se créer des certitudes.
Alors, je propose qu'on poursuive nos échanges avec deux questions qui nous ont été posées par Anthony et une maman qui était de passage en ludothèque.
Je suis plutôt anti-écran, donc j'aimerais bien savoir quels seraient les bénéfices justement des écrans et à partir de quel âge.
Parce qu'on parle toujours des mauvais points des tablettes et des écrans, parce que je parle des tablettes parce que c'est surtout les tablettes qu'on a, mais aussi les écrans. Mais est-ce que il y a des points positifs?
Alors, qui souhaite répondre? Laurent, tu as l'air inspiré.
Oui, bah, enfin, c'est pas l'écran en tant que tel, mais c'est ce à quoi elle nous donne accès. Hein. Bah, déjà, c'est pas facile. On peut pas faire de généralité parce que en fonction de quel âge, si tu veux. Mais à partir d'un moment, il va falloir apprendre à utiliser tous les outils en ligne, il va falloir apprendre à les manipuler, etc. Et donc il va falloir mettre l'outil en main de l'enfant pour qu'il puisse l'appréhender. Voilà, on peut pas se passer d'écran pour communiquer dans notre société, pour communiquer vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas là. Hein. Donc, au bout d'un moment, il y a une éducation à l'écran qui doit intervenir auprès de l'enfant.
Alors bah ça, on va en parler aussi plus tard, plus vers la fin. Marie, est-ce que tu as quelque chose?
Oui, il y a quand même plein de points positifs pour les écrans. Donc, ça permet de rester en relation avec des personnes qui peuvent être plus loin. Ça permet de rechercher des informations très rapidement, regarder des photos, stocker des souvenirs. Ça développe aussi des compétences, la sociabilisation, même l'imaginaire avec les jeux vidéo, parce qu'on pointe toujours les jeux vidéo, mais finalement, ça peut aussi développer l'imaginaire. Donc, il y a plein de points positifs. Ça rassure aussi les parents. C'est souvent pour ça aussi que les parents donnent un téléphone portable à leur enfant au départ. Et du coup, effectivement, c'est pas l'écran en tant que tel, c'est l'usage qu'on en fait derrière et comment on peut aider les enfants à être armés et les guider pour qu'ils puissent naviguer de manière responsable au niveau des écrans.
Stéphane ?
Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport notamment à la télévision, ça reste aussi un moment de partage en famille où on va pouvoir regarder un film, un dessin animé. Donc ça amène aussi du partage finalement selon l'écran. Et puis je rebondis aussi sur les jeux vidéo. Moi je suis des fois assez bluffé quand même de ce que ça peut développer pour les enfants selon le type de jeu également. Hein, c'est, et donc je suis... je suis quand même assez bluffé. Pour une petite anecdote, quand même, la dernière fois, j'ai joué au badminton avec mon fils. J'avais jamais vu jouer au badminton, il en fait quelques fois à l'école, mais c'est tout. Et à un moment donné, je me rends compte qu'il lance ce volant loin. Puis après, devant, et loin, et devant. Puis moi, je ramenais toujours le volant. Et puis à droite, et puis à gauche. Et je fais, mais dis donc, en fait, tu veux me faire perdre, c'est quoi ta stratégie? Et il me dit, oui, j'ai appris ça à la Switch. Je fais, comment ça? Et en fait, il y a les jeux de multisport. Et en effet, au badminton, il avait au moins saisi, même s'il ne maniait pas la raquette en vrai, le principe de mettre à droite, à gauche et devant, derrière. Je me suis dit, ah ouais. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu plus d'écran en me disant ça, mais voilà, ça me fait. Je me suis dit, il a appris quelque chose quand même, là où je m'en doutais pas.
Eh bien, moi, je voulais aussi dire que les écrans, ça permet aussi d'amener un outil créatif pour les enfants. Parce que sur un écran, on peut aussi apprendre à faire de la musique aujourd'hui. Alors, on ne manipule pas un vrai instrument, mais il reste aujourd'hui des instruments qui sont numériques. Alors, je n'ai pas les noms des instruments, j'y connais rien. Mais je vois les espèces de...
Ma DJ, MAO, la musique assistée par ordinateur, etc.
Voilà, merci. Enfin, on voit que tu sers à ça, Rémi, merci.
Mais c'est vrai, moi je voulais ajouter que sur le numérique, du coup, sur les actions numériques, il y a aussi, c'est tous les métiers de demain au final. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui sont au travers du numérique, soit le codage, le développement web. Enfin, c'est plein de métiers qui vont aussi apparaître. Enfin, maintenant, même l'intelligence artificielle. Donc, après, ouais, c'est les usages, mais... Au final, il y a un moment, ils seront obligés de s'en emparer. Donc, c'est de savoir faire un bon usage. Et il y a un côté créatif, c'est comme là pour faire de la radio ou du cinéma. Forcément, on passe par des outils numériques. Mais après, ce qu'on dit, c'est une question d'usage.
Ouais. Et alors aussi, dans les écrans, je trouve que parfois, ça peut permettre de montrer des situations à un enfant et du coup, de pouvoir lancer l'échange avec lui. Par exemple, un personnage choupi qui vit... je sais pas quoi, j'ai pas d'exemple, mais ça peut être une situation, je sais pas, il y a un enfant qui embête Choupi et qui veut pas qu'il l'empêche d'aller sur le toboggan, c'est l'occasion d'en parler avec son enfant et de dire, et toi, comment t'aurais réagi, qu'est-ce que t'aurais fait à la place de l'autre enfant, est-ce que tu l'aurais aidé, et je trouve que du coup, c'est aussi un outil pour échanger.
Ouais, je pense que notamment par rapport au dessin animé, parce qu'on prend l'exemple de Choupi, c'est un peu comme lorsqu'on raconte une histoire avec un livre. L'important, c'est de le conter avec lui finalement et de rebondir dessus. Ce n'est qu'un support finalement. Et c'est vrai que ça a cette utilité-là. Pardon.
Tout à fait.
De la même manière, pour comprendre comment est fait une vidéo ou comment est fait un son, la meilleure pédagogie, ce sera de devenir créateur soi-même. Et en effet, il faudra utiliser parfois des outils numériques pour pouvoir recréer cela.
Et puis maintenant, il y a plein d'applications qui permettent ça de faire de manière assez simple, sans être un expert du montage, etc. Mais en tout cas, ça donne un premier accès. Au montage photo, montage vidéo, faire des petits clips. Ça aussi, ça permet de la création et de l'imagination.
Il y a plein d'outils pédagogiques qui utilisent le numérique, en effet.
Tout à fait. Bon, et si on passait au sujet qui va fâcher les enfants, les règles à la maison. Alors, pour commencer, on va écouter plusieurs enfants qui nous ont parlé des règles qui leur sont imposées méchamment par les parents. Alors, on va écouter Camille, Victor et Lison qui nous ont expliqué comment ça se passe chez eux.
Moi, je dois descendre mon téléphone tous les soirs quand j'ai école à 21h30 et le week-end à 23h.
Je peux en faire toute la semaine à partir de... Non, pas toute la semaine, il y a deux jours où je peux pas en faire. Et sinon, les autres jours, je peux en faire à partir de 18h ou de 18h30.
Et tu peux en faire autant de temps que tu veux ?
Non.
Qu'est-ce qui décide ?
C'est maman.
Et papa aussi ?
Non, papa, lui, il me laisse faire autant de temps que je veux.
Ah, t'exagères un peu.
Si on ne
ne peux pas regarder la télé avant de se coucher. Et les papa et maman n'ont pas le droit de regarder le téléphone quand on est en train de manger.
Alors ça, c'était pas Lison, c'était Léonard. Mais c'est presque pareil. Donc on n'a pas mis Lison en fait.
Bah, mince.
Pardon Lison si tu nous écoutes. Alors, chez vous, quelles sont les règles appliquées ?
Alors déjà, les règles qu'on applique chez nous, on les fait ensemble, on les élabore avec l'enfant. C'était notre méthode dès le départ. L'idée, c'est pas qu'il y ait une règle qui vient de nulle part et on ne sait pas pourquoi elle est là. Alors parfois, on peut, nous, parents, qui mettons en place les règles, mais il y a un dialogue à la base. Les règles, on a programmé le Wi-Fi et on a utilisé un logiciel de contrôle parental pour pouvoir définir une durée. On est au-dessus, hein, pour notre enfant de 13 ans, nous, c'est 3 heures, et avec 3 heures par jour, hein, mais elle ne va pas jusque-là parce qu'il y a des créneaux sur lesquels elle ne peut, peut pas utiliser soit l'ordi, surtout la connexion Internet. Ouais. 90% de ce qu'elle fait avec son ordi, c'est quelque chose qui est connecté, en fait. Soit des réseaux sociaux, soit des chaînes, des jeux vidéo, mais en ligne, soit des vidéos. Dernière chose, on a eu une discussion, une petite anecdote, un moment, vers 19h, ma fille ne voulait jamais aller se laver, parce que, une fois qu'elle avait fini... C'est quelque chose que beaucoup de parents connaissent, hein, je pense. Et pourquoi ? Parce que une fois qu'elle avait fini ses devoirs, bah, c'était le petit moment privilégié avec l'écran. Et donc elle se mettait toujours en colère quand il fallait se déconnecter. Et on a convenu ensemble d'une coupure automatique. On a une discussion, ça va pas, écoute, on se dispute tout le temps à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu penses qu'on coupe automatiquement l'écran à telle heure, tel jour, pour que tu ailles se laver ? Et donc elle avait envie de ça, en fait. Elle n'aimait pas non plus, comme nous, elle n'aimait pas les disputes. Et depuis, donc une coupure d'une demi-heure entre 19h et 19h30. Et en fait, depuis, on ne s'est plus jamais disputé pour cette raison-là, à ce moment-là. Quoi.
D'accord. Et chez toi, Stéphane, les règles ?
Oui, alors... Pour le jeu vidéo, c'est un peu la même chose. J'ai un contrôle parental. Alors, il ne peut pas en faire quotidiennement. Il y a vraiment, la plupart du temps, je réfléchis, parce qu'en fait, il y a des activités le soir, ce qui fait qu'il ne peut pas en faire. Mais du coup, la plupart du temps où il peut en faire le soir, c'est qu'il n'y a pas école le lendemain, ou sinon c'est le week-end, où il y a un temps pour ça. Et un peu comme Laurent, on a un contrôle parental. Et au départ, c'était juste une alerte. Qui alertait sur la console le fait qu'il avait dépassé l'heure, puisqu'il y avait une heure comprise. Et en fait, à chaque fois, il dépassait. C'était compliqué d'éteindre l'écran. Et du coup, maintenant, j'ai mis l'option où ça coupe directement. Et paradoxalement, je pensais que ça allait créer aussi des conflits ou autre. Et un peu comme Laurent, ça a réglé le problème finalement. Dès que ça coupe, il a une alerte avant, il a le temps de finir sa partie, mais dès que ça coupe, il le range, il sait qu'il a fait son temps, et comme si en fait c'était plutôt la faute de la console que de notre faute d'avoir arrêté cet écran. Et du coup, c'est vrai que ça a mis à distance un peu les conflits. Et puis pour la télévision, c'est pareil, il y a des jours où mon fils ne regarde pas spécialement, du coup, ce qui est plus jeux vidéo. Ma fille, elle n'est pas trop attirée. Alors, c'est vrai qu'il y a des jours où ils peuvent le faire, les soirs, sur un temps limité avant de manger, ou le week-end. Mais pour le coup, c'est différent parce qu'elle n'a vraiment pas cette relation à l'écran. Donc, je serais même tenté d'oublier un petit peu la télé. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui était intéressant sur l'un des enfants qui a témoigné, c'est aussi les règles pour les parents. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce que je suis en train de me dire que j'ai pas mis trop de règles pour les parents hein, dans cette histoire. Donc voilà, y a, pour les parents, il y a des horaires de télévision qui sont plutôt des horaires routiniers ou des principes, en effet, qu'il n'y a pas d'écran à table. Mais elles ne sont pas vraiment inscrites. Donc, mais ce qui pose plus de questions, c'est le téléphone, auquel, en effet, on est... On y est, mine de rien, souvent, et ils nous voient souvent avec le téléphone, et on s'en rend compte quand eux-mêmes font des réflexions sur le fait qu'on soit régulièrement devant notre écran. Donc c'est alors, à prendre en compte aussi, je pense, dans la mise en place des règles à la maison.
Alors ça, garde-le bien dans ta tête, parce qu'on en parle un petit peu après. Marie, est-ce que toi, tu appliques des règles à la maison avec tes enfants ?
Alors, il n'y a pas de règles écrites, tout du moins.
Pardon, juste, j'ai eu un petit message, je crois qu'on ne t'entend pas très bien.
Ah,
on
s'en branche
du micro.
Ouais. Du coup, donc il n'y a pas de règles, enfin, il n'y a pas de règles écrites, mais les écrans, ça reste occasionnel. Et quand il n'y a pas d'autres activités, ça, ils le savent, une fois que les devoirs sont faits, qu'ils sont douchés et avant de manger. Et après, il y a un temps limité, enfin un timer ou quelque chose comme ça. Et effectivement, du coup, je rejoins les témoignages. Le fait que ce ne soit pas nous qui venions dire là, stop, on arrête, c'est fini, ça change tout en fait. Parce que ça vient de ça avait été défini avant, ça a sonné ou ça coupe. Et finalement, ça passe beaucoup mieux. Enfin, la frustration, ce n'est pas la même. Donc voilà, par rapport. Par rapport aux règles. Et effectivement, moi, j'ai pensé aussi à mettre des règles pour les parents, plus pour l'instant. Je me suis dit tout ce qui est téléphone, etc., que c'était pas mal de l'instaurer avant. Comme ça, finalement, quand ils vont grandir, ça sera comme ça et ils connaîtront déjà ça, quoi.
Ouais.
Un petit point juste sur la coupure du Wi-Fi la nuit. Oui. Ça, c'est un petit truc qui est facile à faire et... Je veux bien mettre en place des ateliers pour montrer aux parents comment le couper en fonction de la box. Ça permet d'appréhender la période adolescente où il pourrait y avoir beaucoup de problèmes de sommeil liés à l'utilisation nocturne des réseaux sociaux.
D'accord. Alors, on a des questions à ce sujet-là dans la partie avec les ados un petit peu après. N'allez pas trop vite aussi, hein, parce que sinon, il n'y a plus de surprise.
Mais j'avais juste une question pour Laurent, c'est que du coup, quand ça coupe le Wi-Fi dans la maison, pour ta fille, ça coupe le Wi-Fi pour tout le monde.
Ouais. Alors, quand ça coupe le Wi-Fi, c'est la nuit, nous on dort aussi.
Ah oui, c'est vraiment...
donc voilà. Et après, on... Non, les box, elles peuvent aussi détecter quels ordi elles coupent.
Okay. Bon, ça
va bloquer un appareil.
D'accord.
Ouais, on peut.
Bon, tu nous diras ça.
Voilà, je découvre.
Alors, on le voit, on a tous des règles. Alors, elles sont plutôt similaires, mais chacun a ses règles à la maison. Pour les faire appliquer, c'est pas toujours facile. Ça peut même être source de tension. Et du coup, on a un témoignage d'une maman à ce sujet. La 6.
Ce qui est parfois dur pour Anna, c'est de s'arrêter. On peut enlever un petit peu de télé, mais c'est difficile de couper court à cette affaire.
Non, c'est vrai.
Parce qu'elle adore, du coup, on lui arrête ça et c'est on arrête.
Bon, c'est de prévenir avant, il ne reste plus qu'un épisode ou deux épisodes, et on va arrêter. On lui demande d'arrêter elle-même, et là, ça passe mieux que si on lui coupe.
Alors Marie, est-ce que tu peux nous indiquer un peu comment on peut réagir quand on est face à un enfant qui se roule par terre parce qu'on a eu la mauvaise idée de dire que là c'était tout, on éteint la télé.
Déjà, c'est normal que les enfants aient du mal à réguler leurs émotions, à gérer la frustration. Les écrans, ça amène du plaisir sans effort. Donc, de toute façon, nous aussi, on le voit bien, hein, on a envie de continuer à être sur l'écran. Et puis, c'est quelque chose qui nous amène du plaisir. Et donc, leur cerveau, il n'est pas mature pour pouvoir gérer toutes ces émotions, toute cette frustration. Donc, Après, voilà, c'est plus travailler en amont, enfin, sur les règles, sur t'as tant de temps, etc. Et après, une fois, ça n'empêche pas les crises. Hein. Il y a des crises qui arriveront quoi qu'il arrive. Mais après, c'est accueillir l'émotion, enfin, lui dire je comprends, là, tu avais envie de regarder cet épisode-là, je comprends. Mais là, c'est terminé. Enfin, rester sur sa position, surtout pas revenir en arrière, parce que là, ça montrerait qu'on avait mis une règle, puis finalement, on revient en arrière. Et l'accueillir et l'accompagner pour passer à autre chose, lui proposer tiens, on peut faire ça, on peut passer sur autre chose, qu'est-ce que tu as envie de faire, ou là viens m'aider à mettre le couvert, voilà, l'accompagner dans ce moment-là.
D'accord. Et justement, quand on a parlé de gestion du temps d'écran avec les enfants interrogés, ils ont été plusieurs à poser la même question. On va donc écouter Lison et Victor.
Est-ce que si on ferait, par exemple, des écrans dans toute une journée, mais pendant tout un mois entier, pendant très longtemps, est-ce que ça nous ferait quelque chose?
Ou ça te ferait quelque chose? Est-ce que ce serait dangereux?
Est-ce que ça nous ferait juste quelque chose? Est-ce que
ça peut faire, quoi?
Est-ce que ça pourrait nous donner mal à la tête ou pas?
J'ai peut-être pas la question 7, la deuxième.
Non, ouais.
Je vais essayer.
Est-ce que si on ferait, par exemple, des écrans dans toute une journée, mais pendant tout un mois entier, pendant très longtemps, est-ce que ça nous ferait quelque chose?
Ou ça te ferait quelque chose? Est-ce que ce serait dangereux?
Que ça nous ferait juste quelque chose? Est-ce que...
Il y a une deuxième qui suit, mais elle n'est pas...
Ah, bon.
Bon, alors, il y en a eu un petit bug. La deuxième question ne veut pas être posée. Décidément, Lison, t'as pas de chance. C'est toujours ton témoignage qui est excusé. Alors, Lison, elle demandait combien de temps par jour on a le droit de regarder la télévision.
Après, ça dépend. Enfin, ça reste des recommandations, donc c'est pas on a le droit. Hein. C'est en fonction de l'enfant, en fonction des parents. Et puis après, il y a aussi le temps d'écran scolaire. Donc, faut définir tout ça. Et après, ça dépend de l'âge. Mais effectivement, regarder la télé ou les écrans pendant toute une journée, pendant
tout
plusieurs
un mois,
voilà, ça peut avoir des conséquences déjà par rapport aux interactions qu'on peut avoir avec les autres qu'on n'aurait plus forcément, par rapport aussi aux troubles, au niveau de la vision, ça a quand même des conséquences par rapport à la vision, par rapport, ça peut provoquer des maux de tête, après il y a ne pas bouger, pas d'exercice physique, il y a quand même des besoins qui ne seraient pas comblés. Donc en tout cas c'est pas tenable de rester devant les écrans toute une journée, c'est pas conseillé en tout cas.
Merci.
Peut-être un truc pour éviter que justement la colère quand on éteint, c'est quand on l'allume, on dit pourquoi on l'utilise, pour regarder un épisode de tel dessin animé, et comme ça quand l'épisode est fini on s'attend aussi à couper l'écran.
Alors, je pense aussi que prévenir l'enfant en avance, lui dire « il te reste un épisode et après on éteint » ou « regarde le sablier, il est bientôt fini, quand le sablier s'arrête, on éteint », c'est aussi des choses qui permettent d'éviter des crises comme ça. Et puis aussi le fait de ne pas couper un épisode en plein milieu parce qu'on a dit que c'était 5 minutes et que l'épisode dure 7 minutes, on peut laisser les deux dernières minutes en lui disant « quand ça c'est fini, on éteint ». Je pense que ça doit aussi aider un peu. Ouais. Stéphane, c'est une situation que tu as déjà connue.
Oui, c'est vrai. Et du coup, de prendre le réflexe de regarder combien il reste ou combien de temps dure l'épisode pour lui dire c'est le dernier. Prévenir en avance également. Pareil pour les jeux vidéo, dire tu finis ta partie. parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arrêter en cours de partie. Ça, c'est important. Et aussi, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on leur demandait d'éteindre les écrans, c'était, enfin, dans le quotidien en tout cas, c'était un truc pas trop fun, du genre parce qu'après tu vas prendre ta douche, parce qu'après on va manger. Ouais, et donc, proposer une autre activité, un entre-deux, avant l'obligation quotidienne, c'est aussi un moyen d'éviter les tensions. Mais des fois il faut se le rappeler parce qu'on est pris dans sa vie de parent et on est timé et donc du coup c'est pas évident de proposer autre chose, un entre-deux avant les obligations auxquelles ils doivent se résoudre.
Alors pour la gestion des écrans, on a Anthony qui a souhaité nous partager sa petite astuce.
Alors, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des règles pour l'utilisation ? Donc, par exemple, Charlotte, le soir, toi, tu as le droit de regarder un épisode dans ta chambre sur la tablette, un ou deux épisodes.
Moi, c'est pas le nombre d'épisodes, mais moi, j'ai une certaine heure et ça se bloque, et il y a un automatisme qui bloque la tablette.
Voilà, parce qu'on a un contrôle parental qui bloque.
Vous pouvez mettre n'importe quel moment où ça bloque, etc.
Voilà, le contrôle parental, on peut le bloquer. On a accès à distance, donc si on a envie de bloquer à un moment donné, on peut le bloquer à l'instant T. Et sinon, on peut donc te programmer des horaires.
Oui.
Alors, toi, Laurent, je pense que tu maîtrises bien le sujet du contrôle parental.
J'ai mis en place un contrôle parental sur l'ordi de ma fille avec elle. On l'a fait évoluer aussi en fonction des pratiques. Hein, on s'est rendu compte qu'il y a des trucs qui ne marchaient pas à certains moments. Enfin voilà, à chaque fois en cohérence. Elle a un ordi sous Linux, donc j'utilise un logiciel qui s'appelle CT Parental sur Linux. Mais il y a l'équivalent des trucs beaucoup plus simples. Ça s'appelle Family Link sur Android, ça s'appelle Family Safety sur Windows. Et les produits Apple, c'est intégré dans l'interface. Voilà, YouTube aussi met en place une appli qui est seulement pour, enfin, qui propose seulement des contenus dédiés aux enfants.
Ah oui, YouTube Kids.
Ouais. YouTube Kids. Ouais. Voilà. J'utilise. Par contre, je coupe jamais à distance l'ordinateur sans avoir une explication ou une règle. Voilà. Et enfin, le contrôle parental, ça permet le filtrage d'Internet aussi, pour éviter d'exposer l'enfant ou plutôt l'adolescent à plein de contenus. On peut avoir une gestion fine de tout ça. On peut cocher ou décocher la possibilité d'aller sur un site de jeux vidéo, d'aller sur un site de vidéo ou d'aller sur un site adulte. Il y a plein de critères. Voilà.
D'accord. Alors, parfois, quand on est parent, on a tendance à sortir, enfin, à dégainer même l'option écran quand on ne sait plus trop comment occuper notre enfant. Je pense par exemple aux vacances, qui parfois sont des périodes assez longues. Nous-mêmes, on est fatigués et du coup, on se dit, bon, allez hop, c'est bon, je vais les mettre un peu devant l'écran et comme ça, je peux souffler un peu. Mais il existe plein d'alternatives aux écrans. Est-ce que vous en connaissez ou est-ce que vous souhaitez en partager ?
Les jeux de société, dans un premier lieu. Et surtout, l'habitude qu'on a pris très très petite de s'inscrire à une médiathèque et d'en faire un rite hebdomadaire tous les mercredis, c'est médiathèque. Enfin, voilà, on passe une heure à la médiathèque, on choisit des bouquins ou des jeux, quand il y a d'autres choses.
Et toi, Marie, tu as des petits trucs ?
Oui, bah alors moi, c'est beaucoup sortir au parc, voilà, faire du sport, des podcasts aussi. Il y a des podcasts pour enfants qu'on peut... Enfin, voilà, quand on n'est pas forcément dispo pour pouvoir jouer avec les enfants, ça peut être des podcasts pour enfants. Ça peut être aussi les amener à faire des activités créatives et aussi leur apprendre à s'ennuyer. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, parfois, on veut combler tout le temps des choses. On a... Enfin, oui, je m'ennuie. Oui, oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux faire bah, je sais pas. Et finalement, on voit que peut-être après 4-5 fois qu'ils soient venus nous voir, mais bah, au final, ils trouvent un truc génial à faire et ils s'éclatent pendant 30 minutes. Donc, enfin, voilà, faut pas négliger l'ennui. Et c'est important pour les enfants, surtout. Faut pas avoir peur de ça.
Mmh, tout à fait.
Non, mais je rejoins, j'ai pas vraiment de choses à rajouter de ce qui a été dit par.
D'accord. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit outil que. Hélène, pardon, cherchez son prénom. Que Hélène, l'orthophoniste, qui nous a tout à l'heure fait part de ses témoignages, elle m'a prêté. En fait, c'est un petit. Un petit jeu avec des cartes que l'enfant peut piocher au hasard et qui propose du coup une petite pause sans écran. Alors c'est plein de petits jeux tout simples qu'on peut faire à la maison sans acheter de matériel, qu'on fait avec ce qui existe à la maison. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra pour que les gens voient
peut-être,
ce que
faire
c'est
un déplacement.
Voilà. On va faire télé-shopping.
Comme ça devant l'écran.
Alors... Parfait, super, vous le voyez. Du coup, ça s'appelle Ma pause sans écran aux éditions Mango.
Des super cartes.
Avec des super cartes, voilà. Merci Rémi.
Et du coup, je voulais rajouter, est-ce que c'est vrai que parfois, moi, il y a des parents qui me disent, bah oui, mais je ne vois pas ce que je peux proposer aux enfants. Donc déjà, ça, c'est une super idée. Et ça peut aussi être, bah, je crée avec mon enfant, je ne sais pas, un petit pot. Voilà, vous prenez un pot de confiture ou je ne sais pas. Et vous mettez des papiers, vous dites, bah tiens, qu'est-ce que tu aimerais bien, enfin, qu'est-ce que tu aimes bien faire. Donc des idées, je ne sais pas, en couleur verte qui durent 5 minutes et des idées en couleur jaune où là, c'est peut-être un petit peu plus long, 30 minutes, par exemple sortir au parc ou faire un jeu qui est plus long. Et finalement, ça peut être, bah tiens, on va piocher une petite idée en fonction du temps, bah, soit c'est telle couleur ou l'autre. Et c'est l'occasion aussi de le créer ensemble. Et finalement, l'enfant, bah, ça l'incite aussi, enfin ça lui donne envie de passer à autre chose.
Très bonne idée. Oui.
Petit témoignage. En ce moment, ma fille a fait une très grosse bêtise et elle est interdite depuis plus d'une semaine d'écran. C'est la première fois que ça arrive et je pensais qu'elle serait un peu ronchonchon au quotidien. Eh ben non, pas du tout. Je suis vraiment étonné.
T'es
parce que non, pas du tout, au contraire, mais je m'attendais à une addiction plus profonde, si tu veux.
Bah, c'est rassurant, du coup.
Ouais.
Tant mieux.
C'est qu'elle peut s'en passer.
Bah, c'est ça. Bon, et ben on a fini avec le moment pas drôle pour les enfants. Maintenant, on pourrait peut-être parler un peu de comment on choisit les écrans, les jeux, les réseaux pour nos enfants. Et pour voir un petit peu ça, on a une question d'Alice.
Pourquoi certaines applications sont réservées à des plus grandes à un certain âge?
Ah. Pourquoi certaines applications sont réservées à un certain âge? Qui a envie de répondre? Personne. D'accord. Alors on passe à la question suivante.
Si, enfin, si on peut.
Ben après, les applications, ça va être ben parce que les personnes se retrouvent en lien avec d'autres. Enfin, les enfants peuvent se retrouver en lien avec d'autres personnes. Et du coup, ben ça comporte des risques parce qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran et les enfants ne sont pas armés pour ben faire face à des adultes qui ne seraient pas forcément bienveillants. Donc, voilà. Enfin, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, WhatsApp, c'est quand même pas avant 16 ans. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est pas avant 13 ans. Et l'autorisation parentale est demandée jusqu'à 15 ans. Donc, enfin, voilà, c'est quand même pas anodin. Ça fait partie de notre quotidien et on mesure peut-être pas toujours en tant que parent tout ce qu'il peut avoir derrière parce qu'on se dit, bah, tiens, WhatsApp, elle va, là, notre enfant va parler avec ses copains, ses copines. Puis finalement, non, ça peut être vraiment des conversations, des groupes, etc.
Oui, puis en plus, maintenant, sur WhatsApp, on a accès à une partie qui s'appelle Actu et du coup bah, ça devient finalement un réseau social comme les autres où on a accès à des sortes de petites stories, des petites vidéos qui sont diffusées par un peu tout le monde et donc on voit un peu tout et n'importe quoi de nouveau même sur WhatsApp.
aussi, pourquoi une application n'est pas destinée à des enfants? Aussi parce qu'elle peut exposer l'enfant à des contenus qui ne sont pas de son âge, des contenus violents, des contenus à caractère pornographique, etc. C'est aussi l'une des raisons.
Il y a les PEGI, du coup, pour ça.
Oui, il y a les PEGI, ouais, en effet.
Tu veux en parler un peu, Rémi?
Non, bah, je dis, il y a les PEGI, ouais, pas pour les jeux, je trouve. Ça, c'est un bon indicateur, déjà. Parce que beaucoup d'enfants jouent, par exemple, je sais pas, à Fortnite, alors qu'ils n'ont pas encore forcément l'âge. Enfin, je pense que ça n'a pas été fait n'importe comment. Et c'est histoire de dire voilà, qu'il y a des contenus qui ne sont pas forcément accessibles pour eux et qui peuvent amener à des comportements ou des addictions ou autres. Ouais, derrière, un peu embêtant.
En ce qui concerne les réseaux sociaux, parce que je me suis posé la question avec l'arrivée de la mienne à l'époque adolescente, j'ai choisi de privilégier des réseaux sociaux de messagerie instantanée plutôt que des réseaux sociaux où on voit le profil de l'utilisateur. En gros, j'ai choisi de privilégier Signal ou Telegram à Facebook ou Twitter ou des choses comme ça, tout simplement parce que c'est le droit à la confidentialité de ce que tu y mets. Si tu mets un message, t'as pas forcément les éléments à 13 ans qui te permettent de juger toi-même à quel degré d'exposition tu peux mettre une vidéo, etc. Donc, qu'on a dû choisir au moment du Covid une appli plutôt qu'une autre, on a choisi Telegram pour cette raison-là. Aussi parce qu'on a choisi un logiciel libre, parce qu'on sait comment ça marche, etc. Il y a moins d'incitation à l'achat, au consumérisme, et il y a moins de stratégies réalisées par les développeurs de cette application pour maintenir l'attention de l'utilisateur sur ces outils.
D'accord. Alors moi, je ne connaissais pas Telegram. Je découvre.
Il y a deux applis qui sont libres, deux applis de réseaux sociaux qui sont libres, c'est Signal et Telegram.
D'accord. Ouais. OK. Je ne sais plus où on en est. Oui, pardon. Alors, toi, Stéphane, sur quels critères tu te bases pour choisir les programmes ou les jeux auxquels ton enfant joue, enfin, tes enfants?
Alors déjà, c'est souvent les enfants qui parlent entre eux dans la cour de récré et qui arrivent avec des idées de dessins animés à regarder, de jeux à voir, de sites à aller voir ou de vidéos qu'il faut absolument regarder. Et donc, ça part pas tant de moi finalement le besoin et la demande. Mais après je reste plutôt curieux en tant que parent aussi, donc voilà, j'essaye de me renseigner et puis de voir si c'est en effet adapté en leur âge, parce que ce que je voulais répondre aussi au témoignage de la jeune fille, c'est vrai que c'est difficile aussi pour des enfants de savoir le pourquoi c'est interdit, mais il y a beaucoup de choses en dehors des écrans qui sont interdits. Je pense à l'achat de jeux à gratter, par exemple, chez le buraliste. C'est aussi interdit parce que c'est un effet addictif. Et il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir y jouer ou en tout cas aller s'en procurer. En fait, il y a beaucoup de choses où il faut les codes. Comme la voiture, pour conduire, il faut avoir le code de la route. Et il y a des choses où il faut avoir une certaine maturité, un certain code pour pouvoir y accéder, pour savoir après le réguler et avoir un sens critique. Mais je peux comprendre que c'est difficile pour les enfants, mais c'est important pour en tant que parent, en tout cas, de savoir l'expliquer à l'enfant. Donc après, non, je me renseigne. Je pars plutôt de ce que eux m'apportent finalement. Mais j'oriente très peu pour l'instant. Je parle de mes enfants. C'est vrai que je pense à Laurent, où on est plus âgé, on parle réseaux sociaux. Voilà, c'est intéressant de se renseigner et de se dire, voilà. Puis c'est aussi ouvrir d'autres portes, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des mêmes réseaux sociaux. Or, il en existe beaucoup et on en revient toujours aux 2-3 mêmes dont on parle même dans les médias régulièrement. Et on se rend compte que, comme les plateformes, d'ailleurs, des plateformes de partage, il y en existe énormément, souvent plus sécurisées, souvent libres d'accès, souvent moins commerciales. Et donc, c'est intéressant de voir que, et d'ouvrir à son enfant l'idée que, bah, il existe d'autres portes et d'autres voies.
Dernière chose sur les programmes, sur les films ou les dessins animés. Alors, j'ai un super site qui s'appelle filmage.ch. C'est un site qui répertorie, il y a une base de données énorme de films avec l'âge légal pour regarder le film, l'âge conseillé pour regarder les films, et souvent un petit texte pédagogique à aborder avec l'enfant. Filmage.ch. Et pour rebondir sur les réseaux sociaux qui sont intéressants, et j'avais oublié, mais c'est quelque chose auquel on avait inscrit Oriane, c'est Sens Critique, c'est le nom d'un réseau social où on note et on partage des critiques de films, de séries, etc. Et c'est vrai que c'est aussi le premier réseau social auquel on l'avait inscrit pour montrer justement qu'un réseau social, ça peut être ça. Ça peut être, on partage une impression, une critique sur une œuvre culturelle. Ça peut être ça.
Merci pour le partage. Ouais. Alors, on se rend compte que plus l'enfant grandit, plus il est en demande d'écran, et puis arrive l'entrée en sixième au collège, et très souvent, le smartphone arrive avec aussi, parce que tu l'as dit, Marie, il y a un côté rassurant pour les parents. Souvent, c'est l'âge où l'enfant va commencer à aller au collège seul, à prendre le bus, à rentrer des fois à la maison seul. Et c'est rassurant de se dire, il va pouvoir m'envoyer un petit message, je saurai où il est, je peux l'appeler si jamais il s'est trompé de bus. Enfin, voilà. Du coup, avec l'arrivée de ce smartphone dans les mains des ados, il y a des questions qui se posent par les parents, mais aussi par un ado. Qu'on va écouter tout de suite.
Comment convaincre un ado que le téléphone n'est pas bon ?
Et peut-être moi, les impacts des écrans pour les plus grands, les ados, et même nous en tant qu'adultes, comment ça impacte notre cerveau ?
Alors Marie, ça t'inspire ?
Alors du coup, le téléphone n'est pas bon, c'est encore une fois, c'est l'usage qu'on en fait qui n'est pas bon. Parce qu'au final, si jamais on a un téléphone, qu'on s'en sert pour passer 3-4 coups de téléphone et qu'on ne fait pas autre chose, ça ne pose pas problème. Donc après, c'est voilà, la consommation qui va être excessive et l'impact que ça va avoir sur notre vie quotidienne. Donc après, ça j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il peut avoir le surpoids. Parce que manque d'exercice physique et tendance à grignoter un peu plus quand on est sur les écrans. Le sommeil aussi a un impact quand même sur le sommeil. Et tout à l'heure, on en parlait sur les ados notamment. Il y a un tiers des ados qui se réveillent la nuit pour regarder leurs notifications. Donc du coup, il y a quand même un impact. Déjà, les ados se couchent tard parfois à cause des écrans. Et du coup, en plus, en pleine nuit, ils peuvent se réveiller pour regarder les notifications. Donc ça a un impact sur le sommeil. Et du coup, ça peut aussi avoir un impact sur la scolarité parce que fatigue, concentration plus compliquée. En sachant que les écrans, 9 minutes d'écran le matin, ça c'est pour les plus jeunes, mais 9 minutes d'écran le matin, ça a un impact sur toute la matinée au niveau de la concentration. Donc du coup, c'est pas anodin. Quand j'avais entendu le chiffre, ça m'avait choqué. Ouais. Parce qu'au final, on se dit, le matin, on est en speed, on met l'enfant devant un dessin animé, par exemple. Mais finalement, ça va avoir un impact sur sa concentration toute la matinée. Donc voilà. Après, les troubles visuels, j'en ai parlé tout à l'heure. Il peut aussi avoir un impact au niveau de tout ce qui est santé mentale par rapport aux réseaux sociaux notamment. Alors, ce n'est pas forcément ça qui va créer des troubles, mais ça peut les alimenter. Parce que justement, avec l'algorithme qui fait qu'on voit tout le temps le même contenu, etc., ça peut créer de l'anxiété, augmenter la dépression, des troubles alimentaires, etc. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. L'isolement aussi. Enfin, voilà, c'est important de se questionner, bah, en fait, OK, qu'est-ce que tu fais sur ton écran ? Est-ce que tu parles à des amis ou pas ? Est-ce que tu joues avec des amis ou est-ce que tu joues tout seul ? Enfin, voilà, donc se questionner par rapport à ça. Et bah, aussi, l'impact, ça peut être aussi des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge et qui peuvent les choquer, les interpeller. Et ils ne partagent pas forcément ça avec les parents. Donc, c'est hyper important de dialoguer. Ce n'est pas forcément simple à l'adolescence parce que c'est une période quand même, c'est une étape entre l'enfance et l'âge adulte. Il y a les règles, elles évoluent. Il y a besoin aussi de s'émanciper en dehors du cocon familial. Donc, je suis beaucoup avec les pères. Mais d'un autre côté, j'ai quand même besoin... Enfin, je ne suis pas assez mature pour gérer tout seul. Et j'ai besoin des règles et du cadre des parents. Donc voilà, du coup, c'est important de continuer à dialoguer et aussi de dialoguer par rapport aux écrans. Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues à quoi ? Et finalement, ça peut amener le dialogue. Parce qu'à l'adolescence, parfois, les écrans, c'est « Oh bah non, arrête-moi ce jeu, c'est n'importe quoi. » Finalement, c'est peut-être la seule interaction qu'on peut avoir et pour pouvoir dialoguer sur d'autres choses.
Après, l'option pour les jeux vidéo, ça peut être aussi que le parent arrive à jouer avec l'enfant au jeu. Enfin, l'ado, pardon. Alors, quand il veut bien.
oui, ça peut être... Ouais, non, ça peut être une option, mais en tout cas, en parler, c'est ça qui est vraiment hyper important. Même si on n'est pas un pro de tout ça, en tout cas, en parler, dialoguer, je pense que ça, c'est vraiment indispensable.
Alors, toi, Laurent, je me souviens que dans nos échanges, tu m'avais dit que tu te demandais aussi un peu avec le contrôle parental où on s'arrêtait, parce que où commence l'intimité de notre adolescent. Est-ce qu'on respecte vraiment son jardin secret quand on est avec le contrôle parental ? Donc, où les choses s'arrêtent et où l'intimité commence ?
Disons que à partir de l'adolescence, il va y avoir une évolution très importante de l'usage de l'écran. La mienne n'a pas de téléphone, mais je vois cette évolution quand même malgré le fait qu'elle n'ait pas de téléphone. Ça va devenir le. Ça ne devrait pas devenir le journal intime à ciel ouvert. Et pourtant, c'est l'utilisation que vont avoir beaucoup d'ados avec. La pratique des réseaux sociaux. Leur première expérimentation de médias connectés, la recherche de personnes qu'elles vont essayer, qu'ils vont ou elles vont essayer de contacter via le web. Et là, on va arriver à des problématiques donc de confidentialité, de qu'est-ce que je peux mettre sur le web, qu'est-ce que je peux pas mettre sur le web.
Comment je m'expose ou pas ?
À quoi je m'expose, ouais, en effet. J'ai quelques pratiques vis-à-vis de ça. La première fois qu'on l'a inscrite sur Telegram, ça peut être controversé ce que je vais dire, mais moi je lui ai dit, prends le réseau social comme un jeu. Ne mets pas d'informations sur toi. Choisis un faux nom, un faux prénom, un faux avatar. Enfin, tu t'appelles comme tu veux. C'est un jeu, et d'ailleurs, ça peut participer à fabriquer de l'imaginaire. Moins tu mets de vraies informations sur un réseau social, sur toi, plus tu es préservé de cela pendant un bout de temps. Ça a marché parce que ma fille, comme tous les enfants, ont fait des bêtises avec des réseaux sociaux, mais ça a permis de ne pas la mettre, de ne pas l'exposer, justement. Là-dessus, quoi.
Il y a une question, c'est comment faire pour qu'un ado ne se sente pas exclu de son groupe d'amis qui est sur tous les réseaux sociaux et pas lui. Je ne sais pas si quelqu'un...
C'est une problématique que je rencontre en ce moment, étant donné qu'ils sont trois dans toutes ces relations à ne pas avoir de téléphone portable. À 13 ans... quasiment tous les enfants en ont un et un téléphone portable avec une connexion téléphonique. je vois que ça lui manque. Mais je vois qu'elle arrive à vivre, à contourner, contourner ce manque-là par la créativité, etc. Je dis pas,
Mais ça n'a peut-être pas duré, mais en tout cas, pour l'instant, elle est...
Je dirais que là, à 13 ans, on peut encore faire 100, mais on résiste. Hein, on résiste à une pression sociale qui est énorme. Enfin...
C'est un combat de tous les jours.
Mais c'est vrai que ça fait partie des règles du groupe d'amis d'avoir aussi ce réseau social. Et c'est là où l'éducation aux médias, elle est importante, puisque finalement, c'est une continuité de... Enfin, nous, c'était assez simple, finalement. Ça s'arrêtait en face de la grille du collège ou du lycée. Là, en effet, il y a une perméabilité de la relation sociale qui fait que ça perdure jusque chez soi et au sein du domicile. Et la crainte des ados et quelquefois même des adultes, c'est de louper des informations de notre groupe d'amis, voilà, et des informations primordiales. Et c'est pour ça que c'est pas tant de l'interdire, c'est de savoir le réguler et d'en parler, d'avoir des temps communs autour de ça.
Marie, tu souhaites ?
Je rejoins en fait le fait de pouvoir dialoguer autour de ça et puis après si jamais il y a un téléphone ou si jamais la personne est sur un réseau social, c'est aussi cadrer les choses. Enfin voilà, il y a c'est hyper important quand il y a une inscription sur un réseau social de mettre le bon âge de l'enfant et de pas dire j'ai 18 ans ou je sais pas ou 19 ans, parce que il y a quand même des choses, même si jamais c'est pas énorme, mais en tout cas ils sont protégés de certains contenus. Enfin voilà, il y a quand même une certaine protection. Donc enfin voilà, c'est comment on arrive à dialoguer là-dessus, comment on arrive à leur donner les clés en fait pour pouvoir se protéger, dire tu peux pas poster telle ou telle chose. Ça, les enfants d'aujourd'hui, ils sont nés avec les écrans, donc ils savent naviguer sur les écrans bien mieux que nous, mais c'est pas pour autant qu'ils maîtrisent les tenants et les aboutissants. En fait, ils vont pas forcément savoir, si je poste telle photo, ça va avoir tel impact. Si jamais on leur dit pas, en fait, ils sont pas armés. Et on leur apprend, dans la vie, t'as pas le droit de dire, enfin, tu peux pas te permettre de dire ça parce que ça provoque telle chose chez l'autre personne. Mais sur les réseaux, c'est pareil, en fait. Et parfois, on leur donne la tablette, l'écran, et on oublie de les armer derrière. Et c'est ça qui est compliqué.
Alors,
le paramétrage des paramètres de confidentialité, c'est un moment qu'on doit avoir à partir du moment où on inscrit l'enfant avec lui, la première fois qu'on l'utilise. Autre sujet important qui arrive à l'adolescence, je ne sais pas si c'est à ce moment-ci, tu me dis.
T'ajoutes une surprise.
l'exposition je trouve plus le terme, à l'aspect marchand du web, en fait.
Oui.
On a fait un petit jeu, elle avait 8 ou 9 ans, on a fait le jeu du recherche le produit caché sur des vidéos YouTube qu'elle regardait. Ça marche très bien, c'est un jeu. On regarde les 2-3 dernières vidéos qu'elle a regardées sur YouTube en disant, mais à ton avis, cette personne-là, pourquoi elle fait la vidéo, est-ce qu'elle est payée pour le faire ou est-ce qu'elle le fait bénévolement par utopie, enfin, ça. Et donc, au fur et à mesure, tu es en train de montrer que qu'il y a un produit à vendre derrière la vidéo, et on va s'amuser à le chercher. Et c'est un très bon moment, et j'ai vu qu'il y avait un avant, un après, et après on a pu extrapoler ce jeu aussi à travers des films qu'on voit, où on voit qu'il y a des marques qui sont mises en avant, etc. Quoi.
Alors, pour terminer avec les ados, je vous propose qu'on écoute la question de Camille.
Et si vous pouviez poser une question à un expert concernant les écrans, ce serait laquelle ?
Est-ce que la légende
des yeux carrés quand on fait trop d'écran, c'est vraiment vrai ou pas?
Alors, à vos têtes, vous la connaissiez pas, cette légende?
Non, je connais pas.
Alors, bah, moi non plus. Du coup, bah, j'ai cherché parce que je me suis dit, on va avoir l'air bête, on sait pas ce que c'est. Bon, bah, alors, ça existe vraiment, cette légende urbaine. Alors, l'idée, c'est que en regardant en continu un écran, nos yeux se transforment en pixels d'écran. Voilà. Bon, alors, Camille, rassure-toi, tes yeux ne vont pas devenir carrés si tu regardes trop longtemps les écrans. Mais je trouve ça pas mal parce que, du coup, ta question nous permet d'aborder. Alors, on va faire très, très bref parce qu'on s'était dit une heure et que ça fait très longtemps qu'on est... ça fait 1h20, voilà. On a un peu débordé. Donc, du coup, ta question, je la trouvais sympa parce que, du coup, ça nous permet aussi de te montrer que bah, tu as vu cette info-là peut-être... au collège avec tes copains, tes copines ou sur Internet, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça montre aussi qu'il faut se méfier de ce qui circule, des infos que tu peux lire. Et donc, bah, non, tes yeux ne vont pas devenir carrés, même si tout le monde dit que c'est vrai. Voilà, en tout cas, merci, elle était marrante ta question. alors, eh ben, je vous propose qu'on termine sur un sujet qui, moi, me tenait à cœur. C'était celui que je préférais. Les parents et les écrans. Alors, hasard du calendrier, aujourd'hui, on est la journée sans écran. Bon, on n'a pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Alors, on parle beaucoup des enfants, mais nous, en tant qu'adultes et parents, quelle image on montre à nos enfants avec nos téléphones? Et du coup, on a des enfants qui ont souhaité nous en parler.
Nous, en tant que parents, je trouve que ben, parfois ça envahit un peu les moments partagés. Enfin, parfois, je dis aux filles, je ne vais pas prendre mon téléphone pour partir en balade parce que sinon, je risque de regarder souvent. Ou quand on fait quand on est en repas et tout ça, il y a souvent le téléphone qui peut biper.
Que quand les parents sont sur les écrans, c'est embêtant parce qu'on n'a pas toujours toute l'attention et du coup on ne peut pas par exemple on ne peut pas toujours parler comme on voudrait à la personne. Que quand les parents sont sur les écrans, c'est embêtant parce qu'on n'a pas toujours toute l'attention et du coup on ne peut pas par exemple on ne peut pas toujours parler comme on voudrait à la personne.
Bon, alors, il y a eu un petit bug. Vous avez entendu deux fois le même témoignage. Bon, sinon, le troisième témoignage, il disait « Quand on joue, ils regardent leur téléphone et ils ne jouent pas avec nous ». Alors, ces témoignages, ils m'ont fait penser à une chanson du chanteur Aldebert. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle « Écran, rendez-nous nos parents ». Et ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à l'écouter. Elle est très drôle. Les parents s'en plaignent plein la figure. Par exemple, je le cite, il dit « Même quand ils sont là, ils ne sont pas là, il n'y a que leur pouce qui s'agite. » Ou encore « Coupez-leur donc le Wi-Fi, on fera connaissance ». Alors vous, en tant que parent, est-ce que il vous est déjà arrivé de vous questionner sur l'utilisation des écrans que vous faites, Stéphane ?
Ben en tout cas, moi, mes enfants m'ont déjà dit, mais t'arrêtes un petit peu d'être sur ton téléphone. Donc déjà, en effet, ça m'a fait prendre conscience que à des moments de la journée, je pouvais y être, même sans m'en rendre compte d'ailleurs, hein, pour faire un drive, par exemple, pas forcément des choses très cool, mais voilà, des obligations. Mais en tout cas, oui, c'est plutôt eux qui m'ont fait la remarque, et c'est vrai que on l'utilise beaucoup. Après, je faisais référence, parce que tu disais en effet que c'était la journée sans écran, et sur une radio concurrente de celle-ci.
Très peu connue. C'est une petite radio.
Une petite radio qui s'appelle France Inter. On peut la citer, mais vraiment, c'est normal si vous ne la connaissiez pas par rapport à cette chaîne qui
grandissante.
Amène beaucoup de... Voilà, grandissante. Et il y avait des témoignages de personnes qui avaient essayé de faire 24 heures sans écran, d'adultes. Hein, et en effet, ils ont mis en avant le manque, pas tant de... Bon, ils s'étaient préparés à ne pas avoir le téléphone pendant 24 heures, mais dans l'utilité du quotidien pour prendre les transports, pour aller voir sa banque, enfin voilà, des choses qui sont présentes sur le téléphone. Et en même temps, ils ont aussi relevé l'inquiétude quand ils ont repris le téléphone les quelques minutes avant de reprendre le téléphone au bout de 24 heures, parce que ils se disaient, mais je vais avoir plein de notifications, ce qui était le cas. Ils avaient franchement des dizaines de notifications, de messages en retard, et voilà, ça... Et ça me fait penser aussi à une dernière chose, c'est sur le téléphone, on peut voir le temps dont on a utilisé le téléphone et quelle application on a utilisé. Et moi-même, je me suis surpris en fin de journée, j'étais vraiment surpris du temps passé, une journée lambda, sur un cumul de minutes d'application que j'ai fait plusieurs fois dans la journée. Et
ça fait peur.
Ça fait peur, ouais. Exactement.
T'as passé combien de temps à regarder, combien de temps t'as passé?
Mais ça dépend des jours, mais je sais plus exactement, je vais dire des bêtises, mais vraiment, ça se comptait en heures, en tout cas,
oui.
Plus d'une heure. Et alors que j'avais pas cette impression, j'avais pas regardé de longues vidéos, j'étais pas resté sur un jeu ou autre, donc c'était vraiment un cumul de petites minutes par-ci par-là qui faisait que ça prenait beaucoup de temps sur une journée. Et je rejoins un petit peu Laurent sur le côté, en effet, le regard critique qu'on doit avoir, nous adultes, mais d'essayer de transmettre aux enfants, d'éduquer les enfants sur l'adage d'ailleurs, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et en effet, le temps passé amène des enjeux financiers pour certaines firmes, et publicitaires, et voilà. Donc c'est important de l'avoir en tête.
On peut ajouter aussi, les chats ne font pas des chiens, si tu veux entrer dans les expressions. Montrons l'exemple, nous, et puis essayons de nous discipliner vis-à-vis des écrans pour que les enfants aussi, qui deviendront après des adultes, se disent il y a une vie à côté et c'est plus sympa quand on se parle en vrai que quand on est à regarder l'écran. Alors je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je trouve qu'on a déjà... Bien débroussailler le sujet quand même. Hein.
Oui, on aurait pu rester toute la nuit.
On peut continuer, mais on va éteindre pour les autres. Quand même.
Vous pouvez éteindre votre écran.
Voilà. Attendez, on n'a pas conclu avant.
Attendez, encore 5 minutes.
Alors, avant de laisser Rémi conclure l'émission, je voulais remercier toutes les familles, ainsi qu'Hélène, notre orthophoniste, pardon. Moi aussi, j'ai besoin d'orthophonie, je crois, là. Qui avait accepté de partager leurs expériences, s'exposer un petit peu comme ils l'ont fait. Merci aussi à Stéphane, Laurent et Marie d'être venus alimenter les échanges et puis faire part de vos expériences. Du coup, je laisse la main à Rémi pour terminer. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier petit mot avant qu'on coupe vos micros?
Non, merci. Moi, je trouve en tout cas, c'est une question, c'est des questions plutôt qui sont universelles dans notre société actuelle. Donc, c'est intéressant ça, et qu'il faut sans cesse remettre en question entre nous, en famille. Donc voilà, ce n'est que la première émission.
Oui, en fait, c'était un peu l'idée de se dire, on tente un premier truc et puis.
Premier jet.
Ouais, et donc on va voir le retour des personnes qui nous ont. D'ailleurs, est-ce que des personnes nous ont écoutés?
Combien? Continuellement, une dizaine d'auditeurs.
Une dizaine d'auditeurs.
Voilà. Et merci pour la préparation en tout cas. Mmh. Voilà, parce qu'on c'est aussi parce que c'était préparé que c'était agréable.
Merci.
Vous, les auditeurs, n'hésitez pas à utiliser le chat pour donner vos envies.
On a bravo et merci pour l'émission. Très bon moment avec vous. Merci pour les réponses et ce partage.
Ah oui, c'est qui a dit ça?
Après, c'est des pseudos. Hein, donc,
Choufaï, voilà, je la connais, c'est
bon
ma cousine. Bonjour Sophie.
Et les gens ont l'air plutôt satisfaits. Mais c'était très agréable à écouter. Moi, du coup, j'étais un peu en spectateur aussi et j'ai passé un très bon moment.
Et toi, Marie, tu veux dire un petit mot avant qu'on...
Oui, bah déjà merci. Et enfin, je voulais rappeler aussi aux parents que bah, finalement, il n'y a pas besoin d'être un expert non plus dans les écrans ou dans, enfin, tout maîtriser du coup comme toi finalement. Donc, mais enfin, il y a vraiment un rôle à jouer en tant que parent. C'est comme, enfin, là, il y a les écrans, mais finalement, c'est comme dans la vie courante. Enfin, et les parents ont vraiment ce rôle-là à jouer et n'hésitez pas à poser des questions, faites-vous confiance et faites aussi confiance à votre enfant.
Merci.
Et tout à l'heure, on avait un message de, oui, pour Marie, je crois que c'est Jade, maman, je veux te faire un câlin et ouais, je veux mon bisou ce soir.
Voilà.
Parce que tout à l'heure, j'avais pas trop compris, mais du coup, voilà, il y avait un message dans le chat sur ça.
D'accord.
Bah, du coup, après l'ouverture, je vais conclure. Bah, merci à tous du coup d'avoir participé à cette première grande émission en live. Enfin, c'était aussi un premier jet pour nous. Donc, nous pouvons retenir qu'aujourd'hui, bah, les parents ont conscience des risques liés à l'exposition aux écrans de leurs enfants ou adolescents, mais souvent ils manquent d'outils pour inviter leurs enfants à faire d'autres activités ou pour que le temps d'écran se transforme en un moment de partage. On espère que les pistes évoquées durant l'émission, bah, elles vous aideront à gérer plus sereinement les écrans chez vous. Si suite à votre, à notre émission, vous souhaitez approfondir les échanges que vous vous posez, vous pouvez prendre rendez-vous au centre social, bah, avec moi pour un accompagnement sur la mise en place du contrôle parental, la découverte des réseaux sociaux, ou même avec Laurent. Je pense qu'il peut, peut-être s'il a le temps, voilà, de venir au centre pour échanger avec les Pourquoi parents. Pas. Donc être aussi accompagné par Marie dans le cadre de ces consultations. Tu veux peut-être donner des précisions, Marie ?
Oui, du coup, enfin, vous pouvez peut-être où les personnes peuvent me contacter. Enfin, oui.
Ouais. Tu peux donner tes coordonnées.
Oui, oui, oui. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 13 71 75 40 et le mail, c'est mtparentalité@gmail.com.
Bon, on le remettra sinon dans, dans le compte, de, dans les, la petite phrase. Ouais. Au-dessus du... Après, on pourra le faire en podcast. Et du coup, aussi, vous pouvez venir à l'appart du Chemin Rouge pour rencontrer Bérangère ou Véronique et venir échanger, qui sont aussi au centre social ou que vous pouvez aussi croiser au centre social ou du coup à l'appart. Et on rappelle également qu'il existe un numéro d'assistance au cyberharcèlement qui est le 3018 où des professionnels peuvent écouter, soutenir, aider toute personne, victime, témoin ou qui se questionne du coup sur la question du cyberharcèlement. Et bien encore un grand merci à tous, et voilà, c'est ainsi qu'on clôture notre émission La Pause des Parents, avec comme thématique la parentalité face aux écrans. Merci beaucoup, et puis merci à bientôt, et merci de nous avoir suivis.
Bonne soirée. Au revoir.